La grande édition du journal en français en sango, une présentation de Karine Estelle Bébé. Belle après-midi, Karine.
Belle après-midi, Marcel, et bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée à la une poursuite en République centrafricaine de la mission conjointe pour l'évaluation de l'accord de paix signé en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. L'équipe n'a pas pu se rendre ce matin à l'intérieur du pays. Plus de 2000 armes de guerre détruites hier à Boire dans la Nana Mombiré par la MINUSCA, des armes collectées dans le cadre du projet Réduction des violences communautaires. Et puis à Bossangwa, c'est une bonne nouvelle pour la relance de la machine judiciaire. La prison réhabilitée a été réouverte hier. On joue cet après-midi le dernier match de la troisième journée du championnat de football de la Ligue de Bangui en première division. USCA de Bangui Espoir Club de Bégoua à 15h au stade Barthélémy Bouganda. Nous sommes deux pour vous présenter ce journal. Igor Teskin-Sinapay, bonjour.
Bonjour Karine Esther Bibi, bonjour à tous.
La mission conjointe Union africaine, Nations unies et Union européenne pour le suivi de l'accord de paix se poursuit en République centrafricaine.
Cette délégation arrivée vendredi à Bangui n'a pas pu effectuer le déplacement de ce matin à Boire en cause de la mauvaise condition atmosphérique due à la pluie. Les membres de cette mission vont donner une conférence de presse cet après-midi.
Cette mission, je le rappelle, est composée de Smaïl Cherghi, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies pour le maintien de la paix, et Quinn Vervaillé, directeur général Afrique du service européen pour l'action extérieure. Direction la Nana Mombiré, où plus de 2000 armes artisanales et fusils d'assaut ont été incendiées publiquement hier.
Ces armes ont été collectées dans le cadre de la deuxième phase du programme de réduction des violences communautaires CVR. L'incinération s'est déroulée au camp de la MINUSCA à Boire.
Priscilla Gaspirine, chef de bureau de la MINUSCA à Boire, se félicite de cette opération proposée par notre correspondant Priva Rodrigue Lekbanga.
Je regarde cette pile d'armes qui veut dire combien de vies nous allons éviter d'être perdues aujourd'hui en détruisant ces armes. Combien de souffrances est-ce que nous allons éviter avec la destruction de ces armes? C'est très important pour nous aujourd'hui, les autorités, les contingents de la police nationale, les FACA, le contingent des Nations Unies, de voir la conclusion d'une effort des DDR pour qu'on puisse sortir ces armes de circulation. Mais il faut remercier les rebelles qui ont décidé de choisir le bon chemin, le chemin de la paix, le chemin du développement. Je voudrais demander qu'on passe une minute de silence, en réfléchissant à ceux qui ont perdu la vie à travers ce conflit, et en même temps remercier ceux qui ont choisi le bon chemin pour donner un exemple aux autres qui sont encore pour arriver.
C'était Périclès Gaspirini, chef de bureau de la MINUSCA à Boire. La première destruction de ces armes a eu lieu en 2018 au centre de Boire. Un monument pour la paix a été érigé sur le lieu de l'incinération. À Bossangwa dans l'Ouame, c'est une bonne nouvelle pour la relance de la machine judiciaire. La prison de la ville est désormais opérationnelle.
Oui, opérationnelle après plusieurs années d'inactivité en raison de la crise qui a secoué le pays à fin 2012. Réhabilitée par la MINUSCA, elle a été ouverte hier en présence des autorités locales, administratives et des partenaires.
Dieudonné Mboli Nangira, directeur régional du service pénitentiaire, au micro de notre correspondant Raphaël Nganari.
La maison d'arrêt de Bossangwa avait été vandalisée lors des récents événements militaro-politiques. Avec la volonté du gouvernement et surtout avec l'appui de nos partenaires de la MINUSCA, cet établissement pénitentiaire a été réhabilité. Certes, cela fait 2 ans aujourd'hui que la maison d'arrêt et de correction de Bossangwa n'a pas été opérationnelle. Le gouvernement a donc décidé de rouvrir cet établissement pénitentiaire. S'agissant des conditions, je peux vous dire que le maximum est déjà là. Il y a eu un retard par rapport à la réouverture du fait que la gestion d'un établissement pénitentiaire est délicate. Il faut réunir toutes les conditions sécuritaires, les conditions liées à l'alimentation des détenus, les conditions liées à leur santé. Tout ce qui touche le droit du détenu doit être respecté afin de se conformer aux normes internationales de détention. Ces conditions ont été réunies.
volet éducation, les établissements scolaires peinent encore à être opérationnels à Birao dans la Vakaga après les événements qui ont secoué la ville.
La plupart des élèves cantonnés sur les sites déplacés ne peuvent accéder dans leur salle de classe à cause de l'insécurité orchestrée par les groupes armés.
Cette situation risque de compromettre le bon déroulement de l'année académique 2019-2020. Faustin Modesti Zingaba.
Cette situation scolaire 2019-2020 reste encore un mythe pour les élèves de Birao dans la Vakaga, même si leur santé semble être garantie. De l'école primaire au secondaire, aucune salle n'est encore ouverte pour accueillir les élèves après les récents affrontements entre les combattants du MLCJ et ceux du FPRC. Cette situation a préoccupé le gouvernement et ses partenaires qui ont effectué le 28 septembre dernier un déplacement à Birao pour palper du doigt les réalités. Christine Mouigana, représentante de l'UNICEF en Centrafrique.
Dans ce genre de circonstances, ce qu'on essaie de faire pour parer au plus pressé, c'est d'établir des espaces temporaires d'apprentissage pour les enfants, qu'ils puissent commencer un semblant d'année scolaire en attendant qu'ils puissent retourner à l'école. Mais c'est une préoccupation qui nous a été clairement exprimée par les autorités là-bas, par les communautés, et nous allons y travailler avec les partenaires.
En dépit de cette situation scolaire très précaire, des dispositions sanitaires ont été prises par le gouvernement et ses partenaires, notamment l'ONG IMC. Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé publique.
La réponse sur le plan de la santé est parfaite. C'était difficile au début, puisque la crise a été imprévisible. Aujourd'hui, d'après le rapport que m'a fait le médecin-chef du district, donc le système de santé dispose des unités qui sont installées dans les sites pour la prise en charge d'urgence. Les cas de palu, par exemple. Une tente pour des blessés, puisqu'il y a eu des blessés remis à leur communauté. Et tous les cas graves sont repérés à partir de ces unités à l'hôpital.
C'est depuis le 1er septembre 2019 que la ville de Birao s'est sombrée dans la crise sécuritaire et humanitaire à cause des affrontements qui ont opposé les éléments du MLCJ à ceux du FPRC. Ces combats ont fait plus d'une soixantaine de morts et des milliers de déplacés.
Merci à vous, Faustin Modesti Zingagba. Du côté de la Lobaye, le secteur scolaire de Baïku 2 manque de personnel enseignant qualifié.
Pour 31 écoles dans le secteur, on compte plus de 60 maîtres par an et 5 instituteurs qualifiés. Une situation dénoncée ce mardi par la responsable du secteur qui appelle le gouvernement à l'aide.
Delphine Perry, chef de secteur scolaire de Baïku 2, au micro de Emmanuel Samboli.
Le secteur scolaire Mbaïki 2 regroupe deux communes, la commune de Pissa et la commune de Lalessé. Nous avons 30 écoles, avec la nouvelle école villageoise, ça fera 31 écoles dans le secteur. Nous avons des difficultés par rapport au personnel enseignant. Dans le secteur, nous avons 60 maîtres par an pour 5 enseignants titulaires qualifiés dans le secteur. Vous voyez, ça pose problème. Donc, nous avons besoin de personnel qualifié pour aider le secteur. Parce que les parents sont fatigués de payer ces maîtres parents. Le message à lancer au gouvernement, c'est de chercher les voies et moyens de prendre ces maîtres parents en charge. Les instituteurs qualifiés, nous en avons besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que la majorité des enseignants veulent rester à Bangui. Ils ne veulent pas venir en province. Parfois, on les envoie. Le chef secteur reçoit celle note de service, mais la personne physiquement ne vient pas prendre service.
C'était Delphine Perry, chef de secteur scolaire de Mbaïki 2. Ici à Bangui, c'est un soulagement pour les élèves et enseignants de l'école Sika dans le 2e arrondissement. L'ONG Action pour le développement communautaire ADC a procédé hier au désherbage de la concession de l'établissement.
Cette activité a été appuyée par l'ancien ministre Kom Hassan Ramadan Atron, secrétaire général de l'ADC au micro de Bonabachir Ngoma Katikiro.
L'appel qui a été lancé par cet établissement suite à son insalubrité totale et avancée. Il y a un adage qui dit, pour pouvoir faire développer le monde, il fallait c'est que chaque enfant doit avoir droit à la santé, à l'éducation, à la protection, à l'égalité. Et donc, présentement, nous sommes dans la phase de la rentrée scolaire et donc pour ça, il fallait ce qu'un travail préalable soit fait. Quel est le travail préalable qui doit être fait par chaque établissement avant la rentrée des enfants dans la salle de classe? Ici, environnement, c'est tout ce que vous voyez ici après un moment de grandes vacances de ces enfants auprès de leurs parents. Vous voyez les herbes qui poussent. Et donc pour ça, pour la reprise de ces enfants, il fallait à ce que ces herbes soient désherbées. Il fallait à ce qu'il y ait le sarclage même de la cour pour permettre à ces enfants à la rentrée des classes de s'amuser, de jouer pendant les heures de la récréation.
de nos frontières au Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant du président Paul Biya lors de la dernière présidentielle, est en ce moment libre.
Maurice Kamto a été libéré hier de prison après 9 mois de détention. Avec ses partisans, il a quitté définitivement la prison centrale de la capitale Yaoundé.
En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, créé cardinal par le pape François ce 5 octobre parmi les 13 nouveaux cardinaux dans la basilique Saint-Pierre.
10 d'entre eux, âgés de moins de 80 ans, deviennent ainsi électeurs au sein du Sacré Collège lors du prochain conclave. De nombreuses délégations appartenant au pays de ces nouveaux cardinaux avaient fait le déplacement, parmi lesquelles celle de la République démocratique du Congo, RDC, avec la présence du président Félix Tshisekedi.
La page sport de cette édition. C'est avec vous, bienvenue Bello, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Ouvrons avec la dernière rencontre de la troisième journée du championnat de football de la Ligue de Bangui en première division.
Une seule rencontre entre USCA de Bangui et Espoir Club de Bégoua à 15h au stade Barthélémy Boganda. Olympique Real de Bangui a empoché les 3 points de la victoire hier aux dépens de Castel Foot sur la marque de 2-0.
En basketball, le club Zarasklo va organiser à Bangui son assemblée générale ordinaire cet après-midi.
L'assemblée générale va commencer à partir de 16h chez Madame Zarambo, pour les dirigeants, sympathisants et joueurs de ce club de faire leur bilan et préparer l'avenir.
Le magazine Sport et Musique de cet après-midi sur Radio Ndekeluka à 15h va recevoir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Régis Lionel Dunda.
Toutes les questions touchant au développement de sport en RCA seront débattues. Il y aura aussi Cyril Damango, président du JIBA BKGS, et Guy Maurice Limbio, président de la Ligue de basketball de Bangui.
En handball, parlons des finales de la Coupe Maman Antoinette Douzima qui ont pris fin hier à l'INGS à Bangui.
3 finales ont été jouées samedi et hier. Retour sur ces rencontres avec Juvenal Kouérébédé.
Les gagnants sont Assopété en junior homme, Académie en senior dame et Padre Pio en senior homme. Victorieux, le club Padre Pio a un fort collectif qui lui a facilité la tâche face à une bonne équipe de AS Saint-Sauveur. Aimé Narcisse Ngetengo est capitaine de Padre Pio.
Le collectif, c'est ça, parce que nous sommes unis et puis nous sommes dans le même quartier. Et puis, tu vois, donc ça fait que tout le temps, on joue ensemble. Voilà, c'est une équipe qui a bien duré il y a longtemps, donc c'est ça.
Dessus, Vivien Yambassa, capitaine de SS Sauveur, n'est pas passé par 4 chemins pour accuser la prestation des arbitres.
Le seul problème qui se passe dans le match, c'est l'arbitre. L'arbitrage est vraiment catastrophique. Mais malgré tout ça, là, on est arrivé à réduire les scores par rapport à la première partie. Que les scores étaient vraiment lourds, écart de 9 points. On arrive à réduire ça à l'écart de 3, c'est bien, mais ce n'est pas la fin du monde.
Cette première édition de la Coupe Maman Antoinette Douzima ne va pas s'arrêter là. Maître Edith Douzima est l'initiatrice du tournoi.
J'ai assisté à la finale des juniors et j'ai trouvé que c'était très bien. Je viens d'assister à la finale des seniors et je trouve que les juniors jouent nettement mieux que les seniors.
La compétition a commencé directement par les quarts de finale avec les 4 premiers du championnat de la saison en cours. Maître Marie-Edith Douzima, première vice-présidente de la Fédération Centrafricaine de Handball, a sponsorisé ce tournoi en mémoire de sa défunte mère, Antoinette Douzima.
Merci Juvenal, et c'est sur cette intervention que prend fin la partie française de cette édition, la version en sango, après la revue de presse à l'international avec Jean-Fernand Quinn.
La revue de presse de Radio Ndekeluka.
Jean-Fernand Quinn, bonjour.
Bonjour, Ghislaine Dinakongwita. Bien de choses à tous les internautes.
La rentrée parlementaire en Centrafrique scrutée par RFI.
Sous le titre Centrafrique, finance et présidentiel au menu de la rentrée parlementaire. Un point particulier mis sur le discours du président de cette chambre qui appelle le gouvernement à une meilleure gouvernance dans la gestion financière, notamment sur la question des marchés publics. J'ai attiré l'attention pour que le gouvernement et le chef du gouvernement en particulier veillent à ce que les hommes d'État s'occupent de la fonction d'État et qu'on laisse la possibilité aux opérateurs économiques de disposer des moyens nécessaires et d'accéder en priorité aux marchés publics de l'État. Et c'est lui d'insister sur la loi concernant les anciens présidents et la loi organique de l'ANE, note RFI.
Toujours à l'Assemblée, le retour de l'ancien président destitué analysé par Jeune Afrique.
Placé sous le titre « Le dur chemin de retour de Karim Mekaswa », l'ancien président destitué en octobre 2018 prépare son retour à Bangui. Conscient des risques qui pèsent sur lui, il a plusieurs fois reporté son retour. Et Jeune Afrique d'ajouter que son appareil politique Chemin de l'Espérance travaille pour mobiliser les militants en vue de ce retour au bercail.
L'insécurité, la MINUSCA rapporte les événements de Bokaranga.
La MINUSCA sur son site note que la MINUSCA intervient contre une attaque des 3R aux premières heures de samedi 23 septembre 2017 pour s'attaquer à la population civile, alerter les forces de la MINUSCA qui étaient en patrouille à différents endroits de la ville au moment de l'attaque. Ont aussitôt réagi et réussi à repousser les éléments armés.
Football, François Zaoui, nouveau sélectionneur de la Centrafrique selon BBC.
François Zaoui, qui a mené la Côte d'Ivoire à la deuxième place de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, a été confirmé comme le nouvel entraîneur de la République centrafricaine. Ce choix intervient une semaine après que l'Ivoirien de 57 ans a quitté son poste d'entraîneur du Niger après 4 ans à la tête de l'équipe nationale. Je confirme que François Zaoui sera l'entraîneur des Fauves, a déclaré Célestin Yanindi, président en exercice de la Fédération de football de la République centrafricaine lors d'une conférence de presse à Bangui mardi.
Diplomatie, le Soudan ferme ses frontières à la République centrafricaine et la Libye.
Le Soudan ferme ses frontières avec la Libye et la Centrafrique, a indiqué le Figaro. Le Soudan a décidé jeudi de fermer ses frontières avec la Libye et la Centrafrique pour des raisons de sécurité. La première mesure du genre prise par les nouvelles autorités soudanaises depuis la chute en avril du président Omar El-Béchir.
Jean-Fernand Kouena, merci.
Merci Dinakor, merci à tous ceux qui ont suivi cette revue. Rendez-vous sur le site indiqué. Je vous souhaite bonne lecture.
La revue de presse de Radio Ndeke Luka.